Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Comme une répétition avant la deuxième journée de grande mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites mardi prochain, la grève déjà aujourd'hui dans les raffineries, centrales électriques, les ports et les docks, avec un mot d'ordre, convaincre et pousser les Français à manifester plus nombreux encore le 31 janvier. Les jeunes, notamment avec le blocage désormais de l'université de Strasbourg. À suivre aussi la visite de la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna à Odessa au lendemain de la décision des Occidentaux d'envoyer des chars lourds pour aider Kiev. Mais au-delà de l'apport militaire sur le front, quel symbole? En quoi est-ce peut-être un point de bascule dans le conflit? On y reviendra longuement à 12h40. Dans cette édition, également nouvelle illustration de la misère de la justice, un procès terroriste en suspens faute de magistrats. Le premier vol des Flying Doctors qui viennent en avion à Nevers pour résoudre le problème de désert médical à l'hôpital. À 12h20, RTL Midi, votre ville a plongé dans votre quotidien avec aujourd'hui le lancement du panier RTL des voitures d'occasion et les bons conseils de Christophe Bourou pour changer sans se ruiner. Les voitures d'occasion, c'est l'objet de la question du jour sur notre site RTL.fr. Votre dernière voiture a-t-elle été achetée d'occasion ?
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Aujourd'hui, direction Angoulême où s'ouvre le 50e Festival International de la Bande Dessinée, festival qui a transformé la ville de Charente. Juste avant 13h, LVT Midi, Michel Leb et Francis Huster sur scène, c'est du théâtre. Et c'est Monique Younes qui nous emmènera face à la scène avant d'accueillir, vous l'avez dit, un invité exceptionnel dont les auditeurs ont la parole, Pascal.
Vers 13h05, évidemment, on sera avec Michel Sardou, autant de sujets que vous pourrez développer. J'ajoute, l'Église pourra-t-elle un jour évoluer sur le sujet de l'homosexualité. Le pape François estime que les lois qui pénalisent l'homosexualité à travers le monde sont injustes, mais il réaffirme que c'est un péché, l'homosexualité.
La météo, c'est avec vous aujourd'hui, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi ?
Oh bah gris, froid comme hier, et puis je vous rajoute un peu de brune là-dedans.
Merci, la avec météo plaisir. Complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Nouvelle illustration de la misère de la justice. Un procès terroriste devrait être renvoyé faute de magistrats. 12 personnes sont actuellement jugées par la cour spécialement composée à Paris, soupçonnées d'avoir préparé un attentat donc pendant la campagne présidentielle de 2017. Mais depuis lundi, l'audience est suspendue car l'une des assesseurs est malade. Alors en théorie, il y a dans ce type de procès des magistrats supplémentaires prêts à prendre le relais. Mais cette fois, faute d'effectifs suffisants, Cindy Hubert, il n'y en a pas.
Oui, la présidente de la Cour se retrouve à présenter ses excuses à tout le monde dans la salle alors qu'elle a tout fait pour éviter cette situation. Alors ce midi, la magistrate ne cache pas sa lassitude. Je vous renvoie à tous les discours sur le manque de moyens de la justice. Cette situation est inadmissible. Renvoyer un procès d'une telle ampleur et d'une telle gravité, il va falloir reprendre tout le procès à zéro. 2 semaines d'audience réduites à néant pour des économies de bout de chandelle, soupire un avocat. D'autant que trouver une nouvelle date de procès s'annonce périlleux. Tout le planning de la Cour est complet jusqu'à l'été et déjà construit jusqu'à Noël prochain, Noël 2023. D'ici là, que faire des accusés toujours en détention provisoire, dont certains depuis 6 ans? La Cour va trancher d'ici le début d'après-midi.
Cindy Hubert, spécialiste justice pour RTL.
Aller chercher encore plus de grévistes à la CGT. Le mot d'ordre est clair. Allonger les cortèges qui défileront mardi contre la réforme des retraites.
Et sans attendre cette journée de mobilisation interprofessionnelle du 31 janvier, la grève a repris aujourd'hui dans les ports, les docks, les centrales électriques ou encore les raffineries. C'est le cas au dépôt Total Énergie de Flandre dans le Nord où la CGT revendique 100% de grévistes. Une grève qui court aussi pour la journée de demain chez les électriciens et gaziers avec à la clé des baisses de production dans les centrales et les barrages. Baisse qui ne devrait pas toutefois provoquer de coupure de courant pour le grand public.
Et puis signe peut-être que le mouvement fait tache d'huile. À Strasbourg, des étudiants lancent le blocage de leur université.
Oui, plusieurs dizaines d'étudiants bloque depuis ce matin l'entrée d'un des bâtiments de la fac, Yannick Olland.
Oui, depuis ce matin, 6h30, des poubelles, des caddies, des palettes en bois bloquent l'entrée de l'Institut Lebel avec cette grande banderole « Réforme des retraites, on dit non ». Premier blocage sur le campus de l'Université de Strasbourg par une quarantaine d'étudiants comme Pierre, 23 ans.
Les étudiants déjà sont là, sont présents, sont en soutien aux travailleurs. Il y a des étudiants qui voient leurs parents, leurs frères, leurs sœurs travailler, qui voient parfois déjà l'état de leur corps déjà épuisé et fatigué.
Et Pierre qui espère que le mouvement va faire tache d'huile.
Si nous les jeunes, on commence vraiment à se motiver, à rejoindre les travailleurs, l'ensemble de la population qui commence à se mobiliser, on peut donner une force en plus. La semaine dernière, à l'Assemblée, après la manif, il y avait du monde. Et pas que des étudiants, pas que les habituels, on avait quelques lycéens, on avait des jeunes qui étaient des jeunes travailleurs. Donc vraiment, là, on est en train de penser, on est en train de prendre, ça discute d'élargir à un peu d'autres endroits. On n'a pas envie de rester juste sur la fac.
Alors une nouvelle AG est prévue à la mi-journée et ces étudiants qui espèrent aussi que les lycéens réussiront à se mobiliser pour vraiment que le mouvement de contestation ne retombe pas entre deux grandes manifs.
Yannick Collant à Strasbourg pour RTL.
RTL Midi.
En Ukraine, réaction immédiate de Moscou à l'envoi de chars lourds par les Occidentaux pour aider Kiev.
L'armée russe a en effet lourdement bombardé le pays cette nuit. Kiev, Odessa notamment, ont été prises pour cible. Odessa, où l'on a appris ce matin que la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est en visite de soutien à l'Ukraine à l'approche du premier anniversaire du conflit. Kiev, Odessa, bombardé, donc on le disait cette nuit, avec à l'arrivée, comme à chaque fois, des sites énergétiques touchés et des victimes, Sophie Jousselin.
Oui, un mort et deux blessés à Kiev, selon l'administration militaire de la capitale. Les victimes ont été touchées par des débris de missiles abattus par la défense antiaérienne, affirment les autorités. Au total, 24 drones Shahed de fabrication iranienne ont été lancés par Moscou. L'armée ukrainienne a annoncé les avoir tous détruits. D'autres missiles auraient été lancés sur l'Ukraine par au moins 6 avions bombardiers russes. Les appareils auraient décollé de Mourmansk, le port militaire russe dans l'extrême nord du pays. Les frappes ont touché des infrastructures énergétiques dans le sud du pays. Le port d'Odessa a été visé, mais aussi la région de Dnipro, dans le centre de l'Ukraine et la capitale. Conséquence, de nombreuses villes sont plongées dans le noir. Ces frappes interviennent, vous l'avez dit, après l'annonce de la livraison de chars d'assaut à l'Ukraine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a d'ailleurs ce matin dénoncé un engagement direct des Occidentaux dans le conflit.
Sophie Jousselin, il reviendra sur la question des chars lourds envoyés par les Occidentaux à midi 40. Qu'est-ce que cela change concrètement sur le terrain? Est-ce vraiment une escalade dans le conflit? Brice Dugénie, spécialiste des questions militaires ici à RTL, viendra tout nous expliquer. En Espagne, une enquête pour terrorisme est ouverte après la double attaque à la machette hier dans deux églises d'Algeciras au sud du pays. Attaque au cours desquelles un sacristain a été tué, un prêtre blessé. Le maire de la ville a décrété un jour de deuil. L'assaillant, lui, a été immédiatement arrêté et placé en garde à vue. Et puis à Paris, garde à vue aussi pour un homme interpellé hier en début d'après-midi. Il est soupçonné d'avoir commis un incendie devant l'église Saint-Laurent dans le 10e arrondissement de la capitale. C'est le parquet qui confirme cette information. D'après nos confrères du Parisien, cet homme serait de nationalité ukrainienne. La météo, on vous retrouve Peggy Broche comme promis pour évoquer l'après-midi. Toujours gris, toujours froid.
Toujours gris, toujours froid, avec en plus de l'humidité puisqu'on a une perturbation alors qui est très peu active. Elle donne surtout des nuages mais également quelques faibles gouttes, voire de la bruine par endroits, c'est temporaire. Mais bon, quoi qu'il en soit, on le sent et c'est assez désagréable, je vous l'accorde, surtout entre les Pays de la Loire, le Poitou, l'Île-de-France et les Ardennes. Mais on a également quelques gouttes ici ou là entre le sud-ouest et le nord-est. Et je fais une différence parce qu'on peut avoir peut-être cet après-midi quelques trouées entre le sud-ouest et le nord-est, ici ou là, vers le Massif central ou vers la Bourgogne. On espère. Bon, écoutez, j'essaye d'être positive. Et puis,
on n'a pas vu le soleil à Paris depuis 10 jours.
Non, ça je vous l'accorde, mais j'ai pas cité Paris, en tout cas, pour le soleil et pour les trouées. Là-dessus, on est clair. En revanche, sur les bords de Manche, il y a plus d'éclaircies avec du vent et quelques averses cet après-midi. Et pour le soleil, ben, comme les derniers jours, il faut être près de la Méditerranée. Beaucoup de soleil, mais aussi beaucoup de vent entre la Méditerranée et les Alpes. Tout ça sous des températures froides, sauf près de la Méditerranée où c'est plus doux, jusqu'à 14 degrés aujourd'hui à Ajaccio, 13 à Nice, 10 à Marseille, 8 à Nîmes, 9 degrés à Brest, 6 à Tours, 5 à Paris, 4 à Toulouse, 3 à Lyon, 2 à Strasbourg, 1 à Clermont-Ferrand et 0 à Langres.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Et ceux qui aiment lire dans les bulles vont être contents puisque nous allons partir pour Angoulême, Céline.
Angoulême, oui, puisque la 50e édition du Festival international de bande dessinée commence aujourd'hui. Bonjour Philippe Demaria.
Bonjour Céline et Pascal.
Des centaines de milliers de fans vont débarquer en Charente, dans cette ville qui est toute l'année aux couleurs de la BD, mais pendant le festival, c'est encore plus marqué.
Oui, la BD s'étale en grand sur une trentaine de murs peints dans toute la ville, impossible à louper. Des fresques immenses des plus grands dessinateurs. On a la rue Hergé, c'est la rue piétonne avec le buste en bronze du créateur de Tintin, le musée de la BD. C'est ici, Angoulême a même une école d'art. La ville, c'est, vous l'entendez, complètement identifiée à son festival. Et pendant 4 jours, fin janvier, c'est maintenant, elle accélère cette mutation. Franck Bondou est le délégué général.
Cette ville aujourd'hui se transforme chaque année, elle accueille 200 000 visiteurs. Ce qui fait en fait toute l'identité de cet événement, c'est la capacité qu'il a à envahir une ville. On n'est donc pas dans un seul lieu, on est dans toutes sortes d'espaces, des espaces en dur, des espaces en éphémère, qu'on appelle de manière très intelligente et maligne des bulles. Je crois que ce qui fait le charme de ce festival, c'est précisément qu'il n'est pas dans un palais des congrès ou dans une structure traditionnelle, mais qu'il envahit toute une ville, partout vraiment où il peut aller.
Il y a la course des remparts à Angoulême, il y a également un festival de cinéma, c'est la plus forte affluence de l'année pour une ville comme Angoulême.
Complètement, bien meilleur que la saison estivale, ça grouille littéralement de monde, les commerçants se régalent. Mariana, elle propose des jus de fruits et légumes, ils sont délicieux et ça marche très fort.
Ça double le chiffre d'affaires, carrément. Et ça parle toutes les langues et c'est super sympa. J'ouvre plus longtemps que d'habitude et j'ouvre le dimanche surtout. J'embauche, on sera 3 à partir de demain. C'est le festival.
Bon, au-delà de la qualité des jus de fruits que vous avez visiblement goûté, Philippe, le succès, l'engouement...
Faut bien se sustenter.
Mais vous avez raison, le succès, l'engouement pour le festival, comment il s'explique ?
Je crois qu'il faut l'expliquer par le fait que la France, c'est tout simplement le deuxième marché mondial de la BD. 80 millions d'albums vendus, autant que les romans. Donc le public est forcément là. Et surtout, les fans peuvent ici rencontrer directement leurs auteurs préférés lors des séances de dédicaces dans les fameuses bulles, avec de longues files d'attente. Riyad Satouf, Grand Prix 2023, auteur de l'Arabe du Futur, m'a confié qu'il adorait ça.
Impossible de pas aimer des fils ininterrompus de gens, de garçons, de filles qui viennent me voir et qui me disent qu'ils m'adorent et que leur papy aime mes BD, etc. Donc moi j'adore faire des rencontres, j'adore faire des dédicaces, j'adore signer, c'est ce que je préfère dans l'existence. Ah bah c'est Angoulême, voilà, c'est le plus grand festival de bande dessinée du monde, donc c'est pas comme à Cannes quoi, il y a quelque chose de beaucoup plus humain, voilà.
Plus humain, plus populaire en tout cas, le 50e Festival International de la BD ouvre aujourd'hui et c'est jusqu'à dimanche, ici à Angoulême.
Merci beaucoup Philippe Demaria.
Dans un instant, le raté des autoroutes. On ne peut pas aller d'ailleurs de Paris à Angoulême en autoroute. Il y a un moment, on est obligé de sortir par la route nationale. Ou comment
c'est
l'État...
Sûr.
C'est vrai. Ou comment... Elle
c'est
n'est
vrai.
Pas directe.
Nationale 10.
Exactement. La 10, c'est compliqué d'ailleurs. Il y a des travaux tout le temps.
Mais ce n'est pas tout à fait notre sujet,
non,
Pascal.
Mais on va parler des autoroutes quand même. Ou comment l'État a laissé filer un magot qui lui tendait les bras. A tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro.
RTL midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro,
RTL Midi.
C'est peut-être la plus mauvaise opération financière réalisée par l'État ces dernières années, la privatisation.
Il y en a quelques-unes.
Des autoroutes. Mais celle-ci, vous allez voir, est assez remarquable.
Financière ratée par l'État, il y en a quelques-unes.
Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
Alors, c'est pas nouveau, hein. On sait que l'État n'a pas toujours fait les bons choix concernant les concessions autoroutières. Mais désormais, on le chiffre avec précision et c'est assez vertigineux.
Oui, et le chiffre est très sérieux puisqu'il vient d'un rapport de l'Inspection Générale des Finances révélé par le Canard Enchaîné. On y apprend que les sociétés d'autoroutes sont 2 fois plus rentables que ce qui était envisagé au moment de leur privatisation. On parle des 2 plus gros concessionnaires, hein, Vinci et Eiffage, 2/3 du réseau. Pour revenir au niveau de rentabilité imaginé au départ, il faudrait une baisse du prix des péages de près de 60%. Autre possibilité évoquée par l'Inspection Générale des Finances, c'est que l'État prélève 55 milliards d'euros sur les 15 prochaines années à ces 2 principaux concessionnaires pour revenir au taux de rentabilité imaginé au départ.
Une fois que le constat est posé, qu'est-ce qu'on fait ?
Rien du tout, parce que ces deux hypothèses énoncées par l'inspection générale des finances sont purement théoriques, c'est de la démonstration, mais ce serait tout à fait illégal. En fait, il y a un contrat qui lie les sociétés d'autoroute à l'État, on n'y déroge pas si facilement. Ségolène Royal s'y était essayée en 2014, elle en sait quelque chose. Hein. Elle avait annoncé en grande pompe le gel des tarifs des péages pour l'année 2015, afin de redonner du pouvoir d'achat aux automobilistes. Les concessionnaires n'ont pas tellement apprécié, ils sont montés au créneau, dans leur bon droit d'ailleurs, hein, puisque la décision du gouvernement de l'époque était tout à fait illégale. Ils ont obtenu des compensations pour la perte de chiffre d'affaires. Un rattrapage entre 2019 et 2023 majoré de 500 millions d'euros. Je rappelle que les tarifs des péages là, vont augmenter de 6%. On paye un petit peu de l'année 2015 qui a été gelée à l'époque.
Donc la décision de Madame Royal a coûté 500 millions, c'est ça ?
500 millions d'euros.
Mais il faut l'appeler Madame Royal, faut qu'elle rembourse.
Je vous laisserai le faire tout à l'heure.
À vous entendre, Pierre, on a l'impression que c'est pas possible du coup de renégocier ces contrats qui ont été passés ?
Alors pas n'importe comment en tout cas. Ce qui est prévu dans les contrats, c'est la possibilité de renégocier, voire de suspendre la concession 10 ans avant la date de fin du contrat, donc 2026 pour les premiers gestionnaires du réseau, c'est donc pas si longtemps que ça. Après, il y en a qui ont des contrats qui courent jusqu'à 2070 pour les plus petites portions. En fait, c'est tout l'objet du rapport commandé par Bercy dont on parle depuis tout à l'heure. C'est prendre conscience d'à quel point finalement le deal était tronqué ou a été mal passé au départ. La gestion des autoroutes a été vendue pour 15 milliards d'euros en 2006. Sur le site de l'ASFA qui représente les concessionnaires, on trouve des données assez intéressantes, notamment le chiffre d'affaires annuel des sociétés d'autoroutes, c'est 10 milliards d'euros. Donc c'est quasiment le montant qui a été vendu au départ. C'est un peu comme si l'État connaissait les numéros gagnants de la loterie, mais qu'il avait demandé à quelqu'un d'autre une petite somme d'argent de les jouer à sa place.
Oui, mais dans votre raisonnement, il y a un truc quand même qui ne va pas. C'est que c'est plus rentable parce que c'est le privé peut-être qui le gère. Mais si l'État le gérait toujours aujourd'hui, peut-être que ce ne serait pas aussi rentable.
Ben, il faudrait essayer. Je ne sais pas quoi vous dire, il faudrait qu'on essaye.
Non, mais par définition, on ne peut pas le savoir. Vous voyez, il y a quelque chose, j'allais dire, de vicié dans le raisonnement. Mais c'est aussi rentable parce que c'est le privé qui s'en occupe.
C'est peut-être que la gestion est plus, j'allais dire, plus acérée.
On va dire comme ça.
Ce qui est certain, Pierre, c'est que l'exécutif connaît bien le dossier.
Ben, oui, déjà parce que Emmanuel Macron, qui est président aujourd'hui, c'était lui frotté aux sociétés d'autoroute en 2015. C'était lui qui était ministre de l'économie quand Ségolène Royal avait annoncé le gel des tarifs. C'est lui qui a négocié...
500 millions, rappelons-le.
Voilà, 500 millions de surcoût. Oui, c'est lui qui a négocié à l'époque pour sortir de la crise avec les gestionnaires d'autoroute, donc il connaît assez bien le dossier. Et puis, Madame Elisabeth Borne était à la tête des concessions d'Eiffage en 2007-2008. Donc, dès que, finalement, l'État a privatisé les autoroutes, c'était elle qui s'en occupait pour le groupe privé. Donc, elle connaît aussi bien le dossier.
Bon, c'est vrai qu'on ironise un peu, mais c'est des décisions quand même. Le gel de Madame Royal a coûté 500 millions. Moi, je retiens ça de ce que vous nous dites. C'est quand même terrible. C'est des décisions politiques qui, à l'arrivée, c'est vous qui payez, c'est moi qui paye.
On peut aussi s'interroger sur la décision de départ. C'est-à-dire le premier choix. Et d'ailleurs, c'était Dominique de Villepin qui était Premier ministre à l'époque. Il s'en est justifié il y a quelques années devant la commission d'enquête du Sénat. Il était accusé d'avoir bradé, en gros, les bijoux de famille. Alors lui, il s'est justifié. Il a dit que, d'abord, il y avait des pressions de la Commission européenne parce qu'il fallait une ouverture à la concurrence. Et puis à l'époque, 15 milliards, ça paraissait
pas mal déjà.
Une bonne somme. Il fallait, on parlait de crise de dette et 15 milliards d'euros, c'est pas négligeable.
Merci beaucoup, Pierre Herbulot. Merci. Je suis pas sûr que Ségolène Royal rappelle Pascal Praud, mais
pourquoi pas au
contraire. Gardez votre téléphone, Pascal.
32-10. Si vous avez une voiture d'occasion, gardez-la parce qu'elle vaut peut-être plus cher que la voiture neuve. C'est tellement compliqué d'avoir une voiture neuve que les gens préfèrent acheter des voitures d'occasion. On va en parler dans une seconde avec Christophe Bourou.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
RTL Midi,
votre vie.
RTL Midi, votre vie, oui, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui, le panier RTL des voitures d'occasion.
Oui, vous le savez, si vous nous écoutez depuis ce matin, RTL, c'est votre cas, Pascal, on n'a pas de doute. RTL,
ça m'a surpris déjà, le panier des voitures d'occasion.
Ah, c'est vrai que c'est pas facile de mettre des voitures dans un panier. Mais l'idée, Pascal, c'est de reprendre la formule de notre panier RTL avec les produits du quotidien. Et là, c'est un nouveau baromètre des prix sur les voitures d'occasion. Bonjour Christophe Bourgault.
Bonjour.
C'est vous qui êtes à la manœuvre. Expliquez-nous d'abord le principe sous cette appellation qui a un petit peu surpris Pascal.
On peut dire une concession géante, hein, si vous préférez. En fait, on va analyser pour la première fois le prix d'une dizaine de modèles les plus demandés sur le marché de l'occasion. Alors, c'est quand même un marché énorme, hein, car même s'il a baissé l'an dernier, il représente plus de 5 millions de véhicules par an. Et cela grâce aux chiffres collectés par Autovisa qui épluche des millions d'annonces par an sur le site de la centrale. Alors on va analyser les prix de la Renault Clio, la Zoé, en passant par la Dacia Sandero, la Volkswagen Golf, encore la Peugeot 3008 ou la Yaris hybride. En réalité, les modèles les plus prisés de moins de 8 ans.
Bon, et le premier constat alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des prix? D'abord, est-ce que je vais acheter une Yaris qui a 18 mois? Est-ce qu'elle est sur le marché de l'occasion?
Elle est sur le marché de l'occasion, mais vous allez la payer assez cher.
La payer plus cher que le neuf?
Non, mais en tout cas, les prix se rapprochent. Vous avez par exemple l'exemple de la Sandero qui, parfois, est plus chère en occasion qu'en neuve. Ah, c'est des occasions récentes, très récentes. Mais les automobilistes sont tellement pressés d'avoir la voiture que la solution, c'est de l'avoir par Internet et d'acheter une voiture d'occasion. Mais si on compare les prix entre janvier 2022 et aujourd'hui, en un an, l'inflation est quand même très forte. C'est près de 17% d'augmentation tout de même. Alors on va prendre, puisqu'on parle de la Dacia Sandero, qui est quand même la voiture la plus vendue en France, elle s'échange à 12 200 euros aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en un an, elle a pris 15%.
Oui, mais ce modèle-là, énorme. Combien de temps et combien de kilomètres?
Alors, ce modèle-là, on est sur des kilométrages entre 10 000 et 40 000 kilomètres.
Ah, c'est pas la même chose, 10 000 et 40 000.
Non, mais on prend un prix moyen de moins de 8 ans. Voilà, ouais. On fait une moyenne sur les voitures qui ont moins de 8 ans. C'est les voitures les plus demandées.
Ouais.
Donc, c'est les voitures qui, normalement...
Mais celle qui a 12 000 euros, elle a pas 8 ans. Elle a 100
non, non, c'est les voitures qui sont les plus demandées, donc c'est plus récent. Pourquoi? Parce que les gens, aujourd'hui, n'ont pas de voiture neuve, puisqu'il faut 9 mois, voire 1 an pour les obtenir. Donc, on se précipite sur les véhicules d'occasion les plus récents. Et forcément, il y a embouteillage, et forcément, eh bien, ça augmente. On va aussi analyser région par région, et puis aussi par motorisation, parce que ce qui est intéressant, contrairement aux idées reçues, le diesel ne perd pas partout. Ainsi, la cote du diesel a fait grimper les tarifs l'année dernière de plus de 14%, ça veut dire qu'on réclame encore du diesel dans beaucoup de régions.
Il faut 9 mois pour avoir une voiture, ça me rappelle quelque chose. Si vous aviez un conseil, est-ce qu'il est urgent d'attendre?
Oui. Parce que le marché devrait un peu se calmer dans les prochains mois. Alors évidemment, si vous voulez une voiture rapidement, c'est plus compliqué. Il faudra souvent faire l'impasse sur votre couleur préférée ou certaines options. D'ailleurs, dans le neuf, si vous demandez par exemple un toit ouvrant sur certains modèles, c'est 3 mois de plus. Donc vous voyez, il y a des concessions à faire, sans mauvais jeu de mots. Toutefois, j'attire l'attention de nos auditeurs. Attention aux arnaques. En ce moment, elles pullulent, puisque évidemment, il y a une forte demande. Par exemple, la plus répandue, c'est le compteur trafiqué. Saviez-vous que sur l'occasion, il y a un modèle sur 10 qui a un compteur trafiqué? C'est énorme.
Alors, on ne peut pas trafiquer quand même le numérique dans le compteur
numérique. Justement, c'est ultra simple. Avant, c'était compliqué parce qu'il fallait un burin, il fallait taper sur le compteur, c'est très compliqué.
Ouais.
Aujourd'hui, je ne vais pas donner la recette,
non,
mais ça prend moins d'une minute pour les voyous pour trafiquer. Et même les concessionnaires n'y voient que du feu, c'est indécelable. La seule façon de repérer, c'est évidemment l'usure,
expertiser
des sièges,
la voiture,
etc., de voir la voiture. Mais sur les compteurs, alors c'est indécelable. Donc c'est un énorme problème et c'est quand même une voiture d'occasion sur 10. Donc faites très, très attention à cela.
Au-delà des arnaques possibles pour ceux qui doivent acheter une voiture d'occasion, aujourd'hui, comment on fait une bonne affaire sans se ruiner
Deux conseils. Le premier conseil, si vous voulez un diesel, vous allez plutôt en Ile-de-France, puisque là, on se débarrasse des voitures diesel.
À cause des normes critères.
Ou à Grenoble, ou à Lyon, etc. L'écart de prix peut varier de 10%, donc c'est quand même pas mal. Deuxième conseil, on l'ignore, mais il y a la location longue durée qui existe aussi pour les voitures d'occasion. C'est le même principe que pour le neuf. L'idée, c'est de payer un loyer mensuel sur une durée déterminée pour 100, 200, 300 euros par mois. Vous avez une voiture et vous la rendez au bout de 3 ans. Des marques comme Peugeot, Renault, Citroën, etc. proposent aussi des services avec l'assistance, l'entretien. Moi, ce que je vous conseille, c'est de négocier, parce que les vendeurs se cachent souvent derrière le montant du loyer pour pas parler de ristourne. Et pourtant, rien ne vous empêche de demander un rabais. On peut espérer 5%, et 5%, c'est pas mal. Là aussi, attention, hein, parce que quand vous prenez une voiture en location sur une longue durée, c'est comme une voiture de courte durée. C'est-à-dire, quand vous la rendez, elle a intérêt à être impeccable parce que les frais sont extrêmement élevés.
Oui, mais elle n'est jamais impeccable, vous le savez bien. Et
moi, ce qui n'est pas mon cas.
C'est un piège, la location longue durée, parce que ça te coûte aussi cher de la remettre en état quand tu la redonnes.
Si on n'est pas effectivement...
Dans Paris, c'est compliqué de garder une voiture en bon état.
Ou alors, il faut... Moi, ce que je conseille, c'est d'aller voir avant un garagiste, de faire la réparation avant. Parce qu'en fait, ce que font les concessionnaires, ils changent, par exemple, le pare-choc entièrement au lieu de le réparer. Quoi. Donc, voilà.
Bon, bah,
merci Christophe.
Merci beaucoup Christophe.
Et vous reviendrez donc nous parler de ce panier
régulièrement.
Des voitures d'occasion.
Tiendra au courant, évidemment.
Bien sûr, bien sûr. RTL Midi, votre vie, c'est terminé. Nous revenons dans une minute, deux minutes pour parler des infos, le retour de l'info avec Céline. À tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi,
le 12h30,
Céline Landreau et Pascal Praud.
La grande édition avec Céline.
On ira à Nevers dès le début de ce journal où un pont aérien a été mis en place pour permettre aux médecins d'assurer les consultations à l'hôpital. Solution radicale dans un désert médical. Grève aujourd'hui dans le secteur de l'énergie contre la réforme des retraites avant la deuxième grande journée de mobilisation interprofessionnelle mardi. Et alors que les députés, eux, préparent leurs derniers amendements à l'Assemblée. À suivre également la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna en visite surprise à Odessa en Ukraine, symbole du soutien de la France. Alors que les Occidentaux ont annoncé hier l'envoi de chars lourds sur le front pour aider Kiev. Qu'est-ce que ça change sur le terrain, sur le plan diplomatique? On en parlera longuement avec Brice Dugénie après le journal. On l'apprend à l'instant, la candidature de Patrick Buisson rejetée par les clubs à la tête de la Fédération française de rugby. On y reviendra dans ce journal. Et puis, juste avant 13h, votre rendez-vous culture, LVT midi. Nous irons au théâtre puisque Michel Leeb et Francis Huster montent ensemble sur scène. Monique Younes vous dira tout. La question du jour sur notre site rtl.fr à propos du panier RTL des voitures d'occasion. On vient d'en parler avec Christophe Bourou. Votre dernière voiture a-t-elle été achetée d'occasion?
On appellera Michel Sardou pour son anniversaire aujourd'hui vers 13h04-13h05. Arrivez-vous à joindre les services publics comme l'assurance maladie, la caisse d'allocation familiale? C'est une des questions également pour les auditeurs. 3210.
La météo à la fin du journal, comme toujours, mais déjà un indice, Peggy Broche.
C'est encore gris, c'est encore froid et en plus il y a de l'humidité.
Ça fait trois indices. Merci Peggy, vous êtes généreuse.
Jusqu'à 13h.
RTL Midi.
Ils ont été baptisés les Flying Doctors, les médecins volants en bon français. Ils sont 8 à avoir pris l'avion ce matin à Dijon, direction Nevers. Vous l'avez suivi sur RTL, 35 minutes de vol contre 2h30 en voiture ou en train. La solution trouvée par les élus pour pallier le manque de soignants dans l'hôpital de Nevers. Bonjour Arthur Pereira.
Bonjour à tous.
Vous avez suivi tout ça depuis ce matin pour RTL et vous avez pu assister aux premières consultations.
Oui, à peine descendu de l'avion direction l'hôpital Pierre Bérégovoy. 5 minutes de voiture, le temps pour le docteur Zouak, pneumologue, d'enfiler sa blouse blanche et de prendre connaissance de tous ses dossiers. Première consultation de la journée, Madame Lecreux, 79 ans.
Madame Lecreux, bonjour. Cette fois-ci, l'injection s'est bien passée?
Oui, j'ai pas eu de symptômes.
Pas eu de symptômes, non. Super.
Vous savez comment il est venu ce matin, le docteur?
Bah, il est venu, je sais pas, en avion.
Ah, elle a regardé les infos.
Oui, j'ai vu ce matin.
Est-ce que vous me trouvez plus en forme ce matin que d'habitude ou vous voyez
non,
pas la...
vous êtes égal à vous-même. Pour lui, c'est quand même plus reposant, je pense, déjà. Puis ça permet quand même d'avoir un peu de médecine. Ici, on n'avait pas... vraiment quelque chose à Nevers. Moi, on a découvert quelque chose en 2017, mais après, j'ai pas été suivie. J'ai eu 3 mois pour avoir un scanner l'année dernière. Alors, vous n'avez qu'à voir.
Et comme Madame Lecreux, en salle d'attente où je me trouve, actuellement, 3 autres patients seront reçus, puisqu'ici, à Nevers, le docteur Zouak prête main forte aux 2 seuls pneumologues restants. Il espère que ce pont aérien incitera d'autres confrères à rejoindre le service.
Arthur Pereira en direct de Nevers pour RTL.
Un avant-goût de la mobilisation de mardi prochain contre la réforme des retraites avec des grèves déjà aujourd'hui dans les secteurs de l'énergie.
Chez les dockers, les électriciens, dans les raffineries, la CGT notamment se mobilise avec ce mot d'ordre. Aller chercher encore plus de grévistes pour s'opposer à la réforme des retraites. Le texte, on le rappelle, doit arriver dans l'hémicycle le 6 février. Avant ça, les députés ont jusqu'à 17h cet après-midi pour déposer leurs amendements en commission. Un débat parlementaire avec au fond une seule vraie question, William Galibert. Est-ce que la majorité pourra compter sur le soutien des Républicains?
Oui, mais ça, je crois que même les dirigeants des Républicains ne sont pas capables de répondre à cette question pour l'instant. Il y avait un deal, il y avait un accord à Noël. LR avait dit à Elisabeth Borne, si c'est 64 ans et une retraite minimum à 1 200 €, c'est bon, top là, on votera avec vous. Mais depuis, l'opinion grogne. Depuis, on a découvert certains aspects très contestés du texte. Et maintenant, vous avez au moins 15 députés LR, 15 sur 60, qui disent carrément qu'ils pourraient voter contre, comme le nordiste Pierre-Henri Dumont.
Il y a des trous dans la raquette pour les carrières longues, pour ceux qui ont fait de l'apprentissage, pour les femmes. En l'état, je vote contre.
Alors, est-ce que ces élus LR peuvent obtenir d'autres concessions pour dire à leurs électeurs « Regardez ce qu'on a arraché au gouvernement » Parce que c'est ça qui se joue derrière ces prises de position. On va commencer à avoir des indices la semaine prochaine quand le projet de loi va arriver en commission à l'Assemblée. Et pour la majorité, c'est simple. Sans l'appui des députés Les Républicains, la réforme ne pourra pas être adoptée par un vote. Il faudra forcer le passage pour faire passer le texte.
William Galibert et les opposants continuent d'affûter leurs arguments. Marine Le Pen était en déplacement dans le Pas-de-Calais.
Je pense que c'est pas joué. Je pense que le vote de cette loi n'est pas joué. Il reste encore un certain nombre de jours où, à mon sens, les électeurs LR doivent faire maintenant pression directement sur leurs députés. Voilà. Pour leur expliquer qu'il n'est pas possible de soutenir une réforme qui est une réforme, encore une fois, profondément injuste, profondément antisociale. Voilà, je pense que c'est aux Français maintenant de prendre leur mail, de prendre leur téléphone et d'envoyer à leurs députés l'expression de ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire s'opposer à cette réforme de retraite.
Marine Le Pen au micro RTL de Marie Mollet.
10 millions de Français ont du mal à joindre les services publics, notamment en ligne. On devrait faire d'ailleurs l'expérience tout à l'heure entre 13h et 14h30. On devrait tout simplement appeler un service public.
Alors là, on parle surtout des accès en ligne. Il y a du problème de l'électronisme, soit parce que les Français ne sont pas à l'aise avec l'informatique, soit parce qu'ils ne possèdent pas d'ordinateur. Pour la défenseure des droits Claire Hédon, l'État doit faire des efforts pour cela et remettre de l'humain pour ne pas se couper d'une partie des citoyens.
La dématérialisation, c'est une chance, hein. Mais il y a des personnes qui sont en difficulté avec le numérique, les personnes âgées, les personnes en situation de précarité sociale, mais aussi les jeunes, qu'on croit très habiles avec leur smartphone, mais qui ont des difficultés. Ils disent plus d'un quart à être en difficulté pour faire des démarches administratives dématérialisées. Et c'est important que ces personnes-là ne soient pas empêchées dans l'accès à leurs droits, que ce soit des remboursements d'assurance maladie, des minima sociaux, je pense RSA, APL, que ce soit sa pension de retraite ou son allocation chômage. Ce que nous préconisons, c'est quand les personnes sont en difficulté, qu'elles puissent continuer à déposer sous forme de papier leur dossier et qu'elles puissent aller voir quelqu'un à l'accueil qui est en capacité de résoudre le problème qui est lié à son dossier personnel.
Claire Hédon avec Armelle Lévy pour RTL.
Jusque-là, ils se mobilisaient contre le trafic de drogue. Les habitants de la cité du docteur Aimé à Cavaillon, dans le Vaucluse, manifestaient à nouveau ce matin.
Mais cette fois pour protester contre l'absence de chauffage depuis plusieurs mois dans leurs appartements où il fait 14-15 degrés. Et cela alors que dans le même temps, les charges s'envolent, Hugo Hamelin.
Exactement, discussion mouvementée devant le local du bailleur social ce matin, une augmentation de 50% de leur facture qui atteint 80 € par mois, désormais pour un système de chauffage central qui ne fonctionne pas, tout simplement depuis le début de l'hiver. Le bailleur social a même conseillé à certains habitants de réchauffer les cuisines en allumant le four à vide, c'est ce qu'explique Sylvie qui est une locataire du Dr Aim.
On a 15, 14 degrés, c'est... Et mes voisins font ça, ils ouvrent la porte de la gazinière, ils ont 90 ans. Hein. Tous les jours, ils ouvrent la petite gazinière, ils allument leur four, ils mettent la chaise à côté avec la petite table, et je vous jure, ils mangent devant leur gazinière avec le four allumé. Dans le four, il n'y a rien. Hein. Non, mais je veux dire, c'est une honte. Moi, j'en ai pleuré quand je suis montée chez eux.
Sourd au courrier, l'office HLM Vallis assure que le chauffage a été rétabli cette nuit, mais ce froid de longue durée, il a eu également d'autres conséquences. Stéphanie fait partie de la Confédération Nationale du Logement qui est venue soutenir les manifestants locataires ce matin.
Il y a tout ce qui incombe finalement à ce chauffage qui n'a pas fonctionné, c'est-à-dire de l'humidité, de la condensation, qui dit humidité, des maladies cardio-respiratoires tout de même, dit mobilier abîmé, dit peinture à refaire. Et en fait, tout ça, c'est ni fait ni à faire.
Voilà, certains locataires de la cité du Dr Aim menacent donc de ne plus payer leurs charges en attendant que les frais soient remboursés, notamment l'achat massif de chauffage d'appoint pour tenir cet hiver.
Hugo Hamelin à Cavaillon dans le Vaucluse pour RTL.
RTL Midi.
La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, en visite à Odessa.
Visite destinée à afficher le soutien de la France à l'Ukraine à l'approche du premier anniversaire de la guerre. Et alors que les Occidentaux ont décidé hier d'envoyer des chars lourds sur le front pour aider Kiev, mais ces chars, qu'est-ce que ça change vraiment au-delà du symbole? On y reviendra après le journal avec Brice Dugénie. On a appris aujourd'hui l'identité d'un des 7 ressortissants français détenus actuellement en Iran, gardé secrète jusque-là. Sa famille vient de la communiquer. Il s'agit de Louis Arnaud, un touriste âgé de 35 ans qui réalisait un tour du monde. Il a été arrêté le 28 septembre dernier à Téhéran. Ces 7 Français, on le rappelle, sont considérés comme des otages d'État par le Quai d'Orsay qui demandent leur libération immédiate. Pour les défenseurs des droits humains, Téhéran utilise cette stratégie de prise d'otages pour tenter d'arracher des concessions à l'Occident.
Et puis après avoir quitté le Mali et la Centrafrique, les soldats français s'apprêtent à quitter le Burkina Faso.
L'armée française est en effet devenue indésirable aux yeux des dirigeants burkinabé est prié de faire ses valises d'ici un mois. Émilie Beaujard, on le disait, c'est le 3e pays africain que les soldats français quittent en quelques mois.
Oui, et c'est intéressant de voir les similitudes entre le Mali et le Burkina Faso. Des attaques djihadistes depuis des années, une force militaire française contestée, des coups d'État et des rapprochements avec Moscou. La présence française se réduit donc encore un peu dans nos anciennes colonies, mais il ne faut pas oublier que 3000 soldats français sont toujours présents au Sahel, répartis sur des bases au Niger, au Tchad et en Mauritanie. Alors leur présence peut-elle être remise en cause également? Difficile à dire. Mais il est clair que dans l'ouest de l'Afrique, la Russie mène depuis des mois maintenant des campagnes agressives de désinformation à l'égard de la présence française, d'où la volonté de la France de réorganiser ses dispositifs en Afrique pour qu'ils soient moins visibles. En gros, venir en appui plutôt qu'en première ligne dans la lutte contre les groupes djihadistes, faire profil bas, en quelque sorte, pour garder sa zone d'influence.
Émilie Beaujard du service étranger d'RTL.
On parle rugby ?
Oui, puisqu'on l'a appris il y a quelques minutes, la désignation de Patrick Buisson comme président délégué de la Fédération française de rugby, sur proposition de Bernard Laporte, vient d'être rejetée par les clubs, Jean-Michel Rascol.
Oui, les 1900 clubs interrogés ont rejeté avec 51% de non le candidat de Bernard Laporte, Patrick Buisson, pour occuper donc le poste de président délégué. Deux solutions s'offrent à Bernard Laporte. La première, c'est de présenter un nouveau candidat, mais cela n'aurait pas de sens. Comme le disait justement Patrick Buisson, le candidat rejeté, dans On refait le sport sur RTL dimanche dernier.
Effectivement, on pourrait présenter un nouveau président délégué, mais ça n'aurait pas de sens. Si le nom l'emporte, forcément, nous devrons passer par de nouvelles élections. Le problème des nouvelles élections, en fait, c'est que le calendrier aujourd'hui nous perturbe un petit peu. Hein, demander une démission du comité directeur en plein tournoi de destination, c'est pas très raisonnable. Hein.
Amélie Oudéa-Castéra assistera demain à un comité directeur exceptionnel à Marcoussis. Elle est probablement, bien sûr, en faveur de la démission de ce comité directeur. Et rappelons que nous sommes à 7 mois et 1 jour de la Coupe du Monde en France.
Et puis on fait un parallèle avec le football. C'est-à-dire que les deux présidents sont hors circuit et maintenant les deux comités directeurs sont possiblement en difficulté.
Exactement.
Merci beaucoup Jean-Michel Rascol. La météo, on vous retrouve Peggy Broche. Après ces 3 indices donnés en titre, on a compris que ce serait frisqué.
Oui, froid avec des températures qui sont souvent sous les normales au nord et c'est plus doux près de la Méditerranée. On a 0 à Langres, 2 à Besançon, 3 degrés cet après-midi à Bourges et Dijon, 4 à Grenoble et Agen, 5 à Paris, Orléans et Cognac, 7 à Cherbourg, 8 à Caen et Nantes, 10 degrés à Montpellier, 11 à Bastia et jusqu'à 14 à Ajaccio. Alors côté ciel, c'est une nuance de gris, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai qu'on a encore beaucoup de nuages sur l'ensemble du pays avec une perturbation. Alors elle est très faible, elle est très peu active, elle donne juste quelques gouttes ici ou là, voire de la bruine, surtout entre les pays de la Loire, le Poitou, l'Île-de-France, en allant jusqu'aux Ardennes et du sud-ouest au nord-est. C'est le même type de temps, mais on pourrait cet après-midi avoir quelques trouées ici et là vers le Massif central ou la Bourgogne. Si vous en avez, vous avez beaucoup de chance. Et plus d'éclaircies sur les bords de Manche avec quelques averses côtières et toujours très beau près de la Méditerranée et les Alpes, avec encore beaucoup de vent.
Merci Peggy.
L'Allemagne et les États-Unis envoient des chars lourds sur le front ukrainien. Qu'est-ce que ça change? Brice Dugénie est avec nous et il va nous le dire peut-être. A tout de suite.
Jusqu'à 13h,
RTL Midi.
Pascal Praud, Céline Landreau.
RTL. RTL Midi. Pascal Praud et Céline Landreau.
Je remercie Monsieur le Chancelier, toutes les personnalités politiques et publiques allemandes pour leur volonté de renforcer la protection de l'Europe. Les États-Unis ont également pris une initiative très puissante. Je remercie tous nos alliés pour leur volonté de nous fournir des chars modernes dont nous avons tant besoin.
Volodymyr Zelensky qui réagit à la décision hier de l'Allemagne et des États-Unis d'envoyer des chars lourds sur le front ukrainien pour aider Kiev. Bonjour Brice Dugénie.
Bonjour.
Près d'une centaine de chars au total. Cette décision, elle était très attendue, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle change ?
Elle va évidemment faire évoluer le rapport de force entre les Ukrainiens et les Russes sur la ligne de front, sur le champ de bataille. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, les Ukrainiens vont être dotés de chars lourds de conception occidentale. On pense au Léopard 2. Alors, il y a aussi les Abrams et les Challenger, mais c'est peut-être encore une autre catégorie. Les Léopard 2, ce sont des chars très lourds, plus de 60 tonnes, très blindés, bien équipés et qui ne sont pas très compliqués à prendre en main et qui existent en de très nombreux exemplaires. Donc ça va permettre aux Ukrainiens de pouvoir pénétrer les lignes ennemies russes avec une protection supplémentaire.
Quand ces chars, ils sont opérationnels ?
Alors l'Allemagne a répondu à votre question puisque ce matin, les Allemands ont dit qu'ils seraient en mesure de livrer ces chars fin mars, début avril. Pourquoi fin mars, début avril ? J'imaginais que c'était la question qui suivait. C'est que au-delà de la mise à disposition du matériel, qui parfois nécessite de la maintenance, c'est-à-dire que certains pays ont promis des chars, mais qui ne sont pas totalement opérationnels, parce que certains étaient sortis de la circulation, il y a aussi la question de la formation. Le Léopard 2 est un char qui n'est pas très complexe, qui n'est pas bourré d'électronique, mais quand même, ça nécessite une prise en main sur une formation initiale. On parle de 2 à 3 mois de formation. Ces formations peuvent être un peu accélérées pour les militaires ukrainiens, histoire que d'ici 2 mois, ils aient la capacité, un équipage de 4, c'est 4 personnes dans un Léopard 2, puisse en prendre possession et arriver sur le front ukrainien.
Ça, c'est pour l'apport militaire stricto sensu. En termes de symbole, qu'est-ce que ça change, ces chars ?
Alors, le symbole, il est... Quand vous livrez votre arme la plus puissante en ce qui concerne l'armée de terre, clairement, au niveau du symbole, vous êtes pratiquement au maximum. Je pense aux Américains qui livrent l'Abrams, c'est clairement leur char le plus lourd et le plus performant. Les Britanniques qui livrent le Challenger, c'est aussi ce qui se fait de mieux. Le Léopard, c'est un peu en dessous en termes de catégorie, mais il y en a 2000 et il y a de nombreux pays qui ont décidé. Donc en termes de symbole, c'est énorme. Et d'ailleurs, pour les Américains, le symbole est très important parce que la question se pose. Et d'ailleurs, au Pentagone, certains ont émis des doutes sur la pertinence d'envoyer l'Abrams, qui est un char très lourd et très complexe à faire fonctionner, très technologique, qui nécessite énormément d'essence. C'est 1000 litres au 100 km pour un Abrams. Donc ça nécessite une logistique hyper lourde. On n'est pas sûr que ce soit très pertinent, mais quand Washington dit on va livrer 31 chars, forcément ça veut dire les Américains sont derrière les Ukrainiens.
Il y a une forme d'escalade. Certains parlent de tournant. Vous récusez souvent ce mot tournant en disant que des tournants, il y en a.
Mais parce que je le récuse a priori, parce que le tournant, on ne pourra le voir que dans 2 ou 3 mois quand ces chars seront opérationnels et on verra si oui ou non les Ukrainiens.
Mais chacun a dans l'oreille les propos de Vladimir Poutine.
Oui, mais qui avait dit dès le début à plusieurs reprises, s'il y a des équipements occidentaux, à ce moment-là, nous riposterons. Si les chars arrivent, nous les détruirons. La question, c'est quelles sont les capacités de riposte des Russes par rapport à ça. Là, on parle d'équipement. Est-ce qu'il y a un cap de franchi ? Est-ce qu'il y a une escalade ? C'est la crainte. Et c'est bien pour ça que la France, d'ailleurs, pour l'instant, n'envoie pas de Charles Leclerc, parce que dans la réflexion, il y a est-ce que cela provoque une escalade vis-à-vis de Moscou ?
Mais voilà, disons les choses. Aujourd'hui, il y a une inquiétude.
On les dit, je crois.
Il y a une inquiétude. Oui, mais on ne dit pas le mot tabou. Le mot tabou, c'est Troisième Guerre mondiale. On ne le dit pas dans notre échange. Est-ce que cette escalade, parce qu'on attend la réaction de Poutine.
Mais parce que la réponse à la question, le fait de livrer des chars lourds à l'Ukraine va-t-elle entraîner le début de la Troisième Guerre ? Non, si c'est ça votre question, par définition, je ne peux pas avoir la réponse. Après, est-ce que c'est une étape de franchie ? Oui, puisque ça a fait l'objet d'une longue réflexion, notamment en Allemagne, qui est d'une tradition pacifiste pour les raisons qu'on connaît, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands ont changé de doctrine, les Américains ont changé de doctrine, mais, et Joe Biden l'a répété hier, livrer des chars Abrams, c'est pour se défendre. Il le répète à chaque fois, histoire de montrer que ce n'est pas un conflit entre l'Occident et la Russie, même si plus les armements sont complexes et puissants, plus ces discours sont difficiles à défendre.
Et dans la foulée de cette annonce sur les chars, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a répété une nouvelle fois qu'il demandait aussi des missiles longue portée, des avions de chasse. Ça veut dire que les chars ne sont peut-être aussi qu'une étape, Brice, ou là encore on...
Après, c'est l'étape du moment. Pour l'instant, en tout cas, aucun dirigeant occidental vous dira il y a une étape d'après, parce que déjà, cette décision, elle a été très compliquée. Et en fait, Zelensky, il est sur la même position depuis le début. Si vous écoutez ses discours au mois de mars ou avril 2022, donc il y a presque un an, il demandait déjà des avions de combat. Et il demandait déjà des missiles à longue portée, mais Mais là, pour les Occidentaux, il y a une ligne rouge, parce que c'est difficile de dire, vous voulez un missile à longue portée, on vous le fournit, mais c'est pour se défendre.
Non,
là,
en ça 10 secondes, la position française, elle est définitive sur les chars?
Elle n'est pas définitive, la réflexion est en cours, a dit le président Macron, mais le problème du char Leclerc, c'est qu'on n'en a que 226. Donc, quand on a peu de matériel, c'est difficile d'en donner, même à ses alliés.
Merci.
Brice Dugénie.
Merci Brice. C'était complet. Et nous allons changer de sujet en parlant de culture
de théâtre,
dans une seconde et de théâtre avec
Michel
Leeb.
Il n'y a pas beaucoup de liens entre Michel Leeb, Francis Huster et Brice Dugénie, si ce n'est l'antenne. C'est RTL, à tout de suite.
RTL pour décrypter. RTL.
Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours, vous le savez, dans RTL Midi. Et nous allons parler théâtre avec Monique Younès. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bonjour. Et toutes.
Et toutes. Bienvenue Monique. Vous nous emmenez voir Michel Leeb et Francis Huster qui jouent les pigeons au Théâtre des Nouveautés. Leeb, Huster, couple improbable.
Oui, improbable mais qui fonctionne. C'est une idée d'ailleurs de Michel Leeb. Il a profité du confinement pour écrire cette pièce, Les Pigeons. Une pièce qui parle du théâtre, de la vie des acteurs en perpétuelle quête de personnages à incarner. Donc c'est la première pièce qu'écrit Michel Leeb et c'est tout naturellement qu'il l'a envoyée à qui ? À son ami de 40 ans. Et qui est son ami de 40 ans ? Francis Huster.
J'ai dit oui tout de suite pour trois raisons. La première raison, c'est que contrairement à l'Angleterre ou à l'Italie, la France est un pays de faux culs. Ça veut dire qu'on considère que les acteurs tragiques restent dans les tragiques, que les comiques restent dans le comique, que les dramatiques et romantiques restent dans les romantiques. Il y a des acteurs extraordinaires qui en ont beaucoup souffert. Donc, pendant 40 ans, il m'a dit « J'ai une idée, mais je t'en reparlerai ». Au bout de 40 ans, quand Michel m'a envoyé la pièce, j'ai été fou de joie. Il a eu l'idée magique de prendre deux stars pour jouer deux ringards. Pour moi, c'est un bonheur d'interpréter cette pièce.
Alors, pour les ringards, c'est effectivement Michel Leeb et Francis Huster. Quand le rideau se lève, il s'apprête à passer un casting pour un film. Michel Leeb joue le rôle de Bernard Deschamps et Francis Huster, Serge Weiss. Au cinéma, ils sont plus habitués aux panouilles qu'aux chefs-d'œuvre, mais ils en vivent, bon l'an, mal an. Bernard a plus de 100 films à son actif, Serge un tout petit peu moins. On ne sait pas si c'est parce qu'il est plus exigeant dans ses engagements ou parce qu'il est moins coté, mais tous les deux sont en compétition permanente. Et en 40 ans de métier, ils n'ont pas pris souvent de vacances. Ils ont trop peur de rater un rôle, le grand rôle qui fera d'eux des stars. Ces acteurs-là, ils émeuvent beaucoup Michel Leeb.
J'ai beaucoup de tendresse, moi, pour tous ceux qui ont des difficultés à émerger. Ils sont tout aussi authentiques et combatifs que nous.
Donc il y a beaucoup de choses de dites sur la vie d'acteur, sur la compétition.
C'est vrai, on est en compétition quoi qu'il arrive. Et puis c'est un métier de jaloux. On est tous jaloux les uns des autres parce qu'il y a une hypocrisie extraordinaire. On est là, oh, c'est formidable, il est merveilleux, ah, ben, je l'adore et tout ça. Mais en même temps, t'as les glandes parce que il fait mieux. Ou alors il fait autre chose, et puis lui, ça cartonne. Et lui, ça cartonne un peu moins, puis etc. C'est toujours, il y a toujours cette rivalité, toujours, même entre amis.
Et vous l'avez dit, Monique, Michel Leeb a écrit sa pièce. C'est la première fois qu'il écrit. Huster et Leeb sont seuls sur scène.
Alors, ils sont seuls le trois quarts du temps, parce qu'ils sont rejoints dans la dernière partie par Chloé Lambert et Philippe Vieux, qui font basculer la pièce, et on assiste là à une histoire d'amour tragique. Et c'est ce qui plaît à Michel Leeb.
Il y a plusieurs registres à jouer. Il y a ce ringard, il y a aussi un homme amoureux, il y a une espèce de traître. Hein. Et puis, il faut révéler quand même, sans révéler. Mais
non, non, tu ne révèles pas.
Non, mais tu es fou.
Mais c'est la première représentation. Les biscottes, la cage aux folles.
Non, je ne vais pas révéler.
Il y a des surprises, voilà. Du théâtre tout le temps.
Il y a du rire, de l'émotion et des surprises. Voilà.
Ce qui est kiffant, c'est que le public, il ne laisse rien passer. Il est dedans.
Il
terrorise. Hein. C'est-à-dire que lui, il n'osera jamais l'avouer. Mais je l'ai vu blanc comme un linge avant de rentrer en scène ce soir.
Hein. C'est vrai, monsieur.
Ah ben oui, vraiment, il avait énormément le trac.
Il faut dire que c'est pas une pièce traditionnelle. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. L'autre jour, il y a un ami qui a dit « Mais ça ressemble à rien ». Mais c'était dans le bon sens du terme. On n'a pas vu ce thème-là des rapports entre l'acteur et ses personnages. Qu'est-ce qu'un acteur quand il n'a pas de personnage ? Comment faire en sorte que les acteurs et les personnages fonctionnent ensemble ? Quel est le personnage idéal pour un acteur ? C'est quand même quelque chose dont on ne traite pas beaucoup.
Alors aussi star soit-il, Michel Leeb et Francis Huster ne sont pas à l'abri de ce qui arrive au personnage de la pièce. Ils ont connu eux aussi des bas après Léo. Alors si vous voulez voir...
Plus de haut quand même pour les deux. Ils traversent depuis 50 ans une carrière au firmament, Leeb et Huster,
oui,
globalement.
Globalement, mais ils ont eu aussi des passages à vide, l'un comme l'autre d'ailleurs. Et Michel Leeb est très 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 inquiet pour son fils là qui démarre. Oui. Tom, et qui n'arrive pas aussi à percer. C'est pour ça aussi, il voit que c'est très, très, comment dire, compliqué aujourd'hui pour les jeunes. Si vous voulez effectivement les voir aujourd'hui au sommet de leur gloire, c'est au Théâtre des Nouveautés du mercredi au dimanche à 21h. Et si vous voulez écouter des journalistes radio au sommet de leur gloire,
C'est à midi, non ?
C'est entre midi et 14h sur RTL. Et il y a une pique. Il y a une pique entre 12h50 et 13h, non ? Débat chez nous, il n'y en a pas.
Ils ont un point commun tous les deux, c'est qu'ils ont percé jeune. Francis Huster était un enfant chéri de la Comédie française. Et Michel Leeb était chez Guy Lux. Il avait 20 ans, 21 ans, où il était d'abord imitateur. Hein,
bien
et
sûr.
Humoriste, et puis il a fait beaucoup de choses. Il est complet, Michel Leeb. On l'a vu également chez Lelouch, où il était
Mais il a joué trois registres. Il a joué effectivement le One Man Show. Il jouait avec le public. Il a joué avec des partenaires. Et là, il écrit. Je crois que c'est son rôle le plus personnel.
Vous voyez comme il est ? Vous lui faisiez un compliment, mais Pascal, il est tellement
caressé.
Les faits, les faits, rien que les faits.
Il n'aime pas les compliments.
Il est 12h58. On va appeler un autre Michel tout à l'heure, c'est son anniversaire. Michel Sardou. Ouh. Et alors, on l'avait appelé déjà l'année dernière, mais on est plus heureux de l'appeler d'une certaine manière cette année parce qu'on sait qu'il va être sur scène le 3 octobre prochain. Il revient au Zénith de
Mais il ne veut pas aider aussi le mari de Sandrine Rousseau ? Si.
Non, on parle pas politique. On a dit qu'on parlait chansons, on parlait non. Pff, écoutez, moi ce que j'aime chez Sardou, c'est le chanteur aussi.
Mais on aime ses coups de gueule aussi.
Bon, alors restez avec nous. 12h58, à tout de suite.
L'actualité vous concerne.
Sur RTL, venez en débattre au 3210.
50 centimes la minute.